RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivie les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs de tous du monde entier, voici les nouvelles aujourd'hui. L'Indonésie encourage la propagation des centres de croissance économique mondiale. Le gouvernement construira 11 postes transfrontalières en 2019. Voici le bulletin complet. Le gouvernement indonésien a initié la formation de nouveaux centres économiques dans le monde. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué mercredi à Jakarta que la propagation des nouveaux centres de croissance économique dans le monde encouragerait plus tard l'égalité économique tout en améliorant le bien-être mondial. À cet égard, elle estime que le gouvernement indonésien encourageait une bonne communication entre les pays du Pacifique et ceux de la région côtière de l'océan Indien. En outre, les bonnes relations entre les États du Pacifique et la côte de l'océan Indien encourageraient l'instauration d'un pays interrégional.
And facing all this, we have no other alternatives.
En établissant un lien entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, nous espérons qu'il y aura de nouveaux centres de croissance sur la rive de l'océan Indien. Parce qu'il y a une dispersion de nouveaux centres de croissance économique, cela signifie qu'il y aura une augmentation en termes de bien-être. Ce sera certainement lié aux questions des pays, etc. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré qu'à cet égard, le gouvernement indonésien a entretenu actuellement une intense communication, non seulement avec les États du Pacifique et la côte de l'océan Indien, mais également avec des pays partenaires tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Australie et la Corée. En outre, elle a déclaré que l'Indonésie établissait également une communication avec les pays de l'ASEAN afin de développer ce concept. Elle a souligné que la coopération internationale est quelque chose qui doit être construite par rapport à une concurrence accrue entre les pays. Le gouvernement construira un nouveau 11 postes transfrontalières PLBN en 2019 répartis dans plusieurs zones frontalières. L'année dernière, le gouvernement avait inauguré cette PLBN, ce qui correspond au programme gouvernemental Nawacita, à savoir construire des banlieues. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Coordination chargée de la politique du droit et de la sécurité, Wiranto, lors d'une réunion de coordination spéciale tenue au bureau du ministère de la Coordination de la politique du droit et de la sécurité à Jakarta Centrale. Selon Wiranto, la construction de 11 PLBN a permis le succès de 7 PLBN qui fonctionnaient auparavant. Le gouvernement a également accepté de rédiger une instruction présidentielle liée au cadre juridique pour la mise en œuvre et l'accélération du développement de 11 PLBN, ainsi que la désinstallation et des infrastructures complémentaires de soutenir la zone frontalière. Il a confirmé que le projet d'instruction présidentielle en cours de rédaction constituait également un engagement contraignant pour les ministres, institutions qui jouent un rôle à PLBN. Les besoins des bases minimaux de TNI jusqu'en 2018 ont atteint 61%. Il a également été noté que la puissance du principal système d'armement indonésien, équipement de défense, place aux 10 plus grands au monde. Le ministre de la Défense, à la retraite Riamizat Riakudu, a transmis ce point de vue au Forum de Kabarat 9, l'édition 4 ans de travail du gouvernement Joko Widodo Yusuf Kala sur le thème « L'accroître la stabilité politique, la sécurité, l'application de la loi et la gouvernance ». La discussion a eu lieu au ministère du secrétariat d'État Jakarta. Riamizat Riakudu a expliqué que pour soutenir le professionnalisme de TNI, plus de 200 000 maisons de soldats avaient été construites, soit 46% du total des besoins, tandis que le nombre de cadres de défendre le pays, a-t-il dit, il avait atteint 83 millions de cadres en 2008. La présidente Joko Widodo a assisté au festival annuel de la création Idea Fest 10 qui a eu lieu à Jakarta Convention Centre GCC vendredi. Le président Jokowi est devenu le conférencier et a ouvert le festival qui s'est tenu pendant 2 jours. Le thème de ce festival est devenir un leader du millénaire à l'ère de l'innovation. Il a déclaré que le DFS sera un moyen pour la jeune génération de développer des stratégies et des idées pour faire face à la concurrence à l'ère du millénaire. Cela a été dit parce qu'il pensait que la jeune génération d'Indonésie serait la génération qui développerait l'Indonésie. Je suis sûr que l'IDFS est le forum qui parle d'innovation sur la science et la technologie, de discussion sur les grandes missions futures basées sur la science et la technologie, de penser hors de la boîte, compiler des idées, des stratégies pour concrétiser les idées. Je sais que devant moi, il y a des gens, des jeunes qui le feront passer à la réalité. Le 2018 IDFS porte le thème Génération C. Génération C est connectée. Génération sont des groupes psychographiques étant connectés et collaborant sur diverses plateformes numériques et ou technologiques. Jokowi a déclaré que les idées créatives de la jeune génération indonésienne devaient également être accompagnées d'une exécution intelligente afin d'obtenir le maximum de résultats. Je veux aussi dire que les idées intelligentes nécessitent toujours une exécution intelligente et doivent être décidées immédiatement, mais avec une intelligence, les idées brillantes ont besoin d'une exécution brillante. Les idées ne seront que des idées si elles ne sont pas accompagnées d'une exécution intelligente et rapide. En plus de présenter des conférenciers qui partageront des réussites dans l'industrie de la création, IDFS 2018 présente également un certain nombre d'ateliers, d'expositions et de bazars. Le dernier, le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan, et l'ambassadeur britannique Muazzam Malik ont discuté de la coopération culturelle, éducative, la coopération d'infrastructures, de transport et de financement afin de la prière du vendredi à la mairie de Jakarta. Après la réunion, Anies Baswedan a déclaré qu'ils ont également discuté des efforts de développer la technologie verte durable et le concept résidentiel intégré. Muazzam Malik a déclaré que le rôle de Jakarta est important pour renforcer les relations de l'Indonésie avec la Grande-Bretagne. Ils sont engagés à ce que la relation soit bien établie. Muazzam Malik a également remis une lettre du maire de Londres invitant Jakarta à rejoindre le Forum mondial de la culture urbaine, composé de grandes villes développées afin de promouvoir les capacités de l'industrie créative qui deviendrait une source de compétitivité pour le pays. Il existe également une offre financière pour accélérer le développement des infrastructures, le financement, selon Moazzam, a été acheminé par le gouvernement britannique par l'intermédiaire de UK Export Finance, une institution qui finance la coopération avec d'autres pays. Pour l'Indonésie, ils ont alloué le budget de 5 milliards de dollars américains. C'est ce dit de titre, c'était la nouvelle aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de divers infos de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Yogyakarta. Afin de préserver la culture Macapat, soit le chant qui contient les conseils de la vie humaine au jeu du peuple javanais, le Bureau de la culture de la Régence Bantul à Yogyakarta a organisé un événement Macapat en masse pendant 72 heures sans interruption. Des centaines de personnes ont participé à l'événement du mardi au vendredi dans la maison du régent de Bantul. Le chef du Bureau de la culture de la Régence Bantul, Sunarto, a déclaré mardi que le chant du Macapat était la deuxième fois après l'an 2008 avec une durée de 48 heures. Sunarto a déclaré qu'il impliquait des étudiants si bien qu'ils soient connus par la jeune génération afin que le temps ne les rôde pas. Macapat est la littérature javanaise sous forme de chansons qui contiennent la vie quotidienne. Il y a 15 anciens scripts Macapat développés. Le manuscrit a été délibérément choisi pour connaître la situation et l'état de la nation. Un exemple, Serat Wulang Reh, créé par le roi de Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono IV, contient le conseil du roi à son peuple de mener une vie harmonieuse. Ensuite, l'info de Jember, Javaès. Un certain nombre de chercheurs de l'Université Jember, avec des chercheurs de l'Institut d'agriculture de Bogor, IPB, étudient actuellement la possibilité de coopérer dans la recherche sur l'empreinte carbone. Docteur Nunung Nuriantono, doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'IPB, a déclaré mardi que ses recherches avaient mesuré la quantité de carbone dioxyde produite en Indonésie, notamment par les ménages. En 2010, l'Indonésie occupait le 12e rang. En 2012, elle est passée à la 5e position, puis est redescendue à la 12e en 2015. Lors de la recherche, la réduction de carbone dioxyde produit par l'Indonésie en 2015 a été affectée par la politique de révocation des subventions de combustible qui est mise en œuvre par le gouvernement, une campagne consciente pour économiser l'énergie et l'amélioration des transports publics. Les résultats de ces études peuvent être utilisés par le gouvernement pour déterminer les politiques économiques qui seront mises en œuvre. La collaboration a débuté par une session de partage entre le doyen de la faculté d'économie et de gestion d'IPB, étant également chercheur d'empreinte carbone avec des chercheurs interdisciplinaires à l'Université Jember lundi 22 octobre après-midi. L'activité ayant pour thème Inequality Carbon Footprint in Indonesia a été facilitée par le programme d'études de troisième cycle de l'Université Jember avec le groupe de recherche sur les objectifs de développement durable. La dernière info vient de Yogyakarta.
Des dizaines de membres du personnel médical et d'experts en poison des pays membres de l'ASEAN se sont réunis à Yogyakarta pour discuter des normes relatives au traitement des maladies causées par les morsures de serpents et les animaux marins venimeux. L'événement fait partie du 5e symposium international sur la gestion de l'environnement envenimé 2018 de l'ASEAN pour les animaux marins et les environnements de serpents qui se tiendra à Yogyakarta jusqu'au 26 octobre. Le président de la Société indonésienne de toxicologie, Dr. Tri Maharani, a déclaré que pendant des décennies, les morsures de serpents et les animaux marins toxiques étaient des problèmes négligés en Indonésie, même si la maladie des morsures de serpents est l'une des causes de décès les plus courantes. En tant que pays agricole doté du plus long littoral d'Asie du Sud-Est, les morsures de serpents constituent l'un des problèmes complexes d'Indonésie. Les dommages causés aux écosystèmes contribuent également à accroître la morsure des animaux venimeux chez l'homme. Les données du Remote Envenomation Consultant Service en 2017 indiquent des cas de maladies provoquées par une morsure de serpent pouvant atteindre 135 000 cas par an contre 133 000 par an pour les cancers. Il a également expliqué que la Société indonésienne de toxicologie et la Société malaisienne de toxicologie signeront un mémorandum d'accord sur la coopération en matière d'éducation, de formation et de recherche sur les effets de morsures, de serpents et d'animaux toxiques. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 27 octobre. Premièrement, le deuxième congrès des jeunes à Jakarta. Le premier congrès des jeunes s'est tenu à Jakarta du 30 avril au 2 mai 1926. Le premier congrès a mis l'accent sur l'importance de l'unité de la jeunesse dans un forum unique pour l'indépendance de l'Indonésie. Le premier congrès a été dirigé par Muhammad Tabrani, l'initiateur du premier congrès. Après le succès du premier congrès des jeunes, le deuxième congrès des jeunes s'est tenu à Jakarta du 27 au 28 octobre 1928. Le deuxième congrès de la jeunesse était le congrès du mouvement de la jeunesse indonésien qui a donné lieu à une décision contenant l'engagement de réaliser les idéaux de la création de l'État indonésien connu sous le nom du serment des jeunes. Le moment du serment des jeunes est connu comme le précurseur du mouvement de l'indépendance indonésien. Le deuxième congrès était dirigé par un jeune homme de l'Association indonésienne d'étudiants, Sugondo Joyo Puspito. En plus des représentants d'organisations de jeunesse, des organisations d'adultes, des particuliers, des membres de Volksraad ou du Conseil du peuple, de la presse, etc., ont assisté à ce congrès. Ensuite, la Journée nationale de l'électricité. Après avoir réussi à s'emparer de la Société d'électricité et du gaz du Japon, une délégation d'employés du secteur de l'électricité et du gaz a rencontré le président indonésien Sukarno pour la remettre au gouvernement de la République d'Indonésie. La session a été reçue par le président Sukarno avec le décret du gouvernement numéro 1 l'an 1945 le 27 octobre 1945. Un service d'électricité et de gaz a été créé sous l'égide du ministère des Travaux publics et de l'Énergie. Depuis lors, le 27 octobre 1945 est connu comme le jour de l'électricité et du gaz. La journée a été commémorée pour la première fois le 27 octobre 1946 à Yogyakarta. La date officielle du 27 octobre est la journée de l'électricité et du gaz conformément à la décision du ministre des Travaux publics et de l'électricité numéro 20 de 1960. Ensuite, sur la base du décret du ministre des Travaux publics et de l'électricité numéro 235 KPTS 1975 du 30 septembre 1975, la commémoration de la journée de l'électricité et du gaz est combinée à la journée de service des Travaux publics et de l'électricité qui aura lieu le 3 décembre. Compte tenu de l'importance de l'esprit et des valeurs de la journée de l'électricité, conformément à la décision du ministre des Mines et de l'Énergie, numéro 1134.K43.PE 1992 du 31 août 1992, le 27 octobre a été proclamé la Journée nationale de l'électricité. Le 27 octobre 1958, le premier président du Pakistan, Iskandar Mirza, a été éliminé par un coup d'état du général Ayub Khan. Iskandar Mirza était le dernier gouverneur général du Pakistan. En 1956, le Pakistan a rédigé sa première constitution et le poste de gouverneur général a été remplacé par le poste de président. Mirza a été officiellement élu président par l'Assemblée. Durant sa présidence, le Pakistan était politiquement instable, ce qui a été marqué par la présence de 4 premiers ministres différents sur une période de 2 ans. En 1958, réalisant que la constitution 1956 causait une instabilité politique, Mirza annonça la promulgation de la loi d'urgence le 7 octobre. Il a nommé le commandant de l'armée pakistanaise Ayub Khan administrateur de l'urgence. Cette décision a riposté rapidement car Ayub Khan a contraint Mirza à démissionner dans les 3 semaines suivant l'adoption de la loi d'urgence et l'a renvoyé en Angleterre. Ayub Khan s'est nommé président le 27 octobre après un coup d'état sans effusion de sang. Mirza a vécu en exil à Londres jusqu'à sa mort en 1969. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en petit titre, l'exposition commerciale d'Indonésie 2018 cible des transactions de 1,5 milliard de dollars américains. Le président Joko Widodo, Jokowi, a inauguré la plus grande exposition commerciale à l'échelle mondiale en Indonésie, Trade Expo Indonesia 2018, à ISBSD Tangerang Sud, mercredi 24 octobre. Le président Jokowi était accompagné du ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, du ministre du Commerce Enggartia Stolokita, du chef de l'Agence pour l'économie créative, Triawan Munaf, du président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Rosan Ruslani, et du gouverneur de Banten, Wahidin Halim. Un certain nombre d'ambassadeurs de pays amis et d'hommes d'affaires étaient également présents à l'événement. Dans son discours d'ouverture, le président a rappelé à toutes les parties la balance commerciale de l'Indonésie qui était toujours déficitaire. Le président a déclaré que le déficit de la balance courante d'Indonésie s'établissait à 17,3 milliards de dollars américains. Ce chiffre important doit être corrigé immédiatement en encourageant les exportations. Le président Jokowi a demandé au ministère du Commerce et aux ambassadeurs indonésiens de pays non traditionnels de stimuler les exportations nationales. Plusieurs 44 contrats du commerce et de l'investissement ont été signés le premier jour de l'exposition commerciale d'Indonésie d'une valeur de 5,19 milliards de dollars américains, donc 513,97 millions de dollars et la transaction commerciale et 4,68 milliards de dollars d'investissement. Au cours de la mise en œuvre de Trade Expo Indonesia 2018, il a été estimé qu'environ 68 contrats commerciaux de missions d'achat ont été signés. Les contrats commerciaux viennent de la Corée Sud, l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Belgique, la France, l'Autriche, la Chine, les Pays-Bas, l'Espagne, le Mexique, la Thaïlande, le Chili, Singapour, la Malaisie, les États-Unis, les Philippines, le Brésil, l'Allemagne, l'Égypte, la Nigeria, l'Italie, Hong Kong, Taipei, les Émirats Arabes Unis, l'Irak et le Japon. Dans ce cas, le ministère du Commerce vise la valeur de transaction pendant une telle exposition pour atteindre 1,5 milliard de dollars américains. Le Salon commercial d'Indonésie 2018, qui se tient du 24 au 28 octobre, présente tous les produits indonésiens de divers domaines, notamment l'industrie, les mines, l'agriculture et l'artisanat. Les produits artisanaux comprennent les produits destinés aux détenus de qualité supérieure, qui sont des produits supérieurs provenant de divers établissements pénitentiaires en Indonésie. Ces produits comprennent des meubles en bois, divers articles de batik, des ballons de foot et des articles en cuir. L'exposition commerciale d'Indonésie 2018 présente également des produits de la mer et des produits de la pêche. Des activités de promotion sur le thème de notre mer au monde ont été organisées par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche en collaboration avec le ministère du Commerce et le ministère des Affaires étrangères. La promotion a réuni 20 participants d'hommes d'affaires de la pêche, Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara, des fournisseurs de services de frais, ainsi que des gouvernements provinciaux et de régions. L'exposition commerciale d'Indonésie 2018 a pour thème créer des produits pour des opportunités mondiales. Dans la déclaration officielle du ministère du Commerce jusqu'au 24 octobre 2018, 8313 acheteurs de 124 pays étaient enregistrés. Chers amis, c'était mon Indonésie. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la région Sukabumi en province Java-Ouest pour profiter de la beauté de la cascade Saver. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonésie. La région Sukabumi à Java-Ouest possède une belle et intéressante richesse naturelle, notamment la région montagneuse du parc national du Mont Gede Pangrango. Il y a diverses attractions naturelles qui méritent d'être visitées, notamment la cascade Sawer dans la région du parc national du Mont Gede Pangrango, au village Sukamaju, au district Kadudampit en région Sukabumi. Voyant son nom, cet endroit touristique est vraiment unique. Sawer en indonésien peut signifier répandre de l'argent. Le nom Curug Sawer, soit la cascade Sawer, apparaît en raison de la grande quantité d'eau provenant du centre de la chute de la cascade. Par conséquent, même si vous êtes loin de la cascade, votre corps restera humide en projetant de l'eau. À cet endroit touristique, vous pouvez voir des affluents habituellement utilisés pour la baignade. Curug Sawer se situe à une altitude comprise entre 900 et 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre à la cascade Sawer, les touristes peuvent entrer par l'entrée du lieu de séjour Situ Gunung à la grande salle du parc national du Mont Gede Pangrango au district Kadudampit à Sukabumi. À partir de cette entrée, les visiteurs peuvent marcher ou louer une moto sur 1,2 km. Le prix de location de la moto est 20 000 rupiah. Tandis qu'environ 240 mètres, il faut traverser le pont suspendu pendant environ 30 minutes, ce qui donnera une sensation différente. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous perdre, car chaque fois que vous vous dirigez vers la cascade Sawer, vous trouverez également un guide qui fournira diverses informations utiles aux touristes. En marchant sur le pont suspendu, vous pouvez également regarder en bas et admirer des arbres verts comme Rasamala qui mesure environ 30 mètres de haut. Si vous visitez la cascade Sawer pendant la saison sèche, utilisez un masque, car beaucoup de poussière vole. Mais si vous venez pendant la saison des pluies, vous devez également être vigilant, car la route que vous suivez a tendance à être rocailleuse et glissante, de sorte qu'elle est exposée aux accidents. Ici, il y a quelques stands de nourriture qui vendent de la nourriture et des boissons sundanaises. Il y a aussi des toilettes publiques, des vestiaires pour les visiteurs et des salles de prière. Il y a aussi une grande zone de camping et du matériel de camping qui peut être loué. Vous pouvez également séjourner dans des hôtels ou des villas à différents prix. La zone autour de la cascade est toujours préservée. Alors, ne soyez pas surpris si en chemin, vous voyez un cygne, par exemple. Et le plus important est de toujours garder l'environnement propre en jetant les ordures à la place. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur le musée Tsunami Aceh, qui devient le musée plus populaire en 2018. Le tsunami a frappé Aceh en 2004. Aceh a construit le musée et le monument pour commémorer l'extraordinaire catastrophe naturelle. Le musée Tsunami d'Aceh a remporté un prix de musée populaire dans le prix du musée de l'Indonésie 2018. Ce prix a été décerné à un musée populaire le dimanche 14 octobre dernier. Le prix du musée indonésien a réuni 400 musées en Indonésie. Dans cet événement, il existe 6 catégories de prix. Le musée intelligent, le musée durable, le musée convivial, le musée unique, le musée populaire et le musée créatif. Le jury choisit ensuite de déterminer chaque catégorie pour un gagnant. Depuis sa création en 2008, le travail du gouverneur de Java West, Ridwan Kamil, est devenu une attraction touristique favorite de nombreux touristes lors d'une visite à Aceh. Le musée Tsunami à Aceh a été inauguré 5 ans après le tsunami à Aceh. Le musée s'appelle également Rumah Aceh Escape Hill, un bâtiment de 4 étages d'une superficie d'environ 2500 mètres carrés avec des murs incurvés recouverts de reliefs géométriques. L'aspect intérieur du musée Tsunami à Aceh est un tunnel du chagrin qui rappelle aux visiteurs le terrible désastre qui a frappé les habitants d'Aceh en 2004. Dans ce musée, il y a beaucoup de littérature pour commémorer la tristesse vécue par les habitants d'Aceh. Vu d'en haut, ce bâtiment ressemble à un navire. Le musée Tsunami, récompensé par des concepts empreints de valeurs de sagesse locale et de visiteurs qui rencontrent toujours le musée tous les jours, est reconnu comme musée populaire en Indonésie en 2018. La secrétaire du Bureau de la Culture et du Tourisme, Rasia Dalla, représentant le Bureau de la Culture et du Tourisme d'Aceh, a reçu le prix à Jakarta. Elle a dit « Cette réalisation indique que le musée Tsunami a commencé à être largement reconnu par le peuple indonésien et même internationalement. Par conséquent, le musée Tsunami continue de s'améliorer pour devenir le principal pionnier de l'éducation et la prévention des catastrophes de tsunami pour le monde. Le bâtiment du musée Tsunami est maintenant le deuxième point de repère pour la ville Banda Aceh après la grande mosquée Baitur Rahman. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter des chansons de Indah Dewi Pertiwi. Restez avec nous à www.voinews.id ou à 3325 kHz ou par l'application de RRI Play. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée « Baru aku tahu cinta itu apa » qui signifie en français « Je viens de savoir ce que c'est l'amour ». Bonne écoute.
Ada saat ku mengerti.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Indah Dewi Pertiwi dont le titre est Baru aku tahu cinta itu apa, ou en français Je viens de savoir ce que c'est l'amour. Cette chanson marque le début de la belle carrière d'elle dans le monde du divertissement, en particulier celui de la musique indonésienne. C'est la chanson principale de son premier album intitulé Hypnotis, ou en français Hypnotique, sorti en 2010. Depuis 2010, Indah a lancé plusieurs albums, entre autres Hypnotis en 2010, Teman Terindah en 2012 et Déjà Vu en 2015. L'album de Hypnotis, qui a 12 chansons, se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Chers auditeurs, écoutons ensuite une chanson intitulée Cintamu adalah takdirku, ou en français Ton amour est mon destin. Cette chanson est chantée par Indah Dewi Pertiwi featuring Tengku Wisnu. Bonne écoute.
Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu pertama ku bertemu.
Sungguh mati cintaku sudah inginkan kamu menjadi kekasihku. Untukku saja
cintaku ada. Sisimu sampai aku mati.
Cinta adalah takdirku. Temanimu sama hidupku. Kamu yang paling bisa selamanya.
Voilà la chanson s'intitule Cintamu adalah takdirku, ou en français Ton amour est mon destin. Cette chanson a été chantée par Indah Dewi Pertiwi avec tant que Wisnu, qui est plus connu comme acteur de feuilleton indonésien. La chanson qui parle d'une croyance de l'amour devient la bande originale de feuilleton intitulé Cinta Fitri, un drame continu diffusé par une chaîne de télévision privée en 2010. Ce single, publié le 13 mai 2010, est également une chanson de l'album The Hypnotic. Chers auditeurs, ensuite, je vous donne deux chansons intitulées Hypnotis ou en français Hypnotique et Gejolak Cinta ou en français Fluctuation de l'amour. La chanson intitulée Gejolak Cinta a été chantée par Indah Dewi Pertiwi avec Sandy Sandoro. Ces deux chansons terminent également notre édition cette fois-ci. Bonne écoute et au revoir.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau. Kamu janji ini, mau. Kamu beri itu, mau. Dibohongin juga, mau.
Mau-maunya aku.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Menjadi sinari hati pasrah, tak merantah. Mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta yang sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia. Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.